Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'original. Radio. Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio. Cube Radio.
Bonjour tout le monde. Bon mardi 30 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. À midi 15, on aura Aref Salem, qui est le nouveau patron d'Ensemble Montréal, le chef d'Ensemble Montréal, l'ancien parti de Denis Coderre qui a quitté la vie politique. On va revenir sur les promesses de la mairesse Plante d'avoir 250 nouveaux policiers à Montréal. Ben non, on a des nouvelles. C'est pas exactement la vérité, la réalité. On va aussi parler d'un dossier que j'ai lu dans la presse. Très bon dossier sur les graffitis à Montréal, à quel point ça a dégénéré, à quel point la ville a l'air sale à cause de ça. On parle pas des murales là, qu'on a prévues pour des artistes, mais du n'importe quoi sur les lieux publics, sur les lieux privés, de quoi ça a l'air, puis comment on laisse aller. Là. Tu sais, tu vas sur Sainte-Catherine, d'est en ouest, c'est y a des graffitis. Dès que tu as un local disponible, tu as des graffitis. On va revenir là-dessus tantôt. Et aussi à 11h15, Luc Gagnon, qui est vice-président sciences et vaccins chez Nexcelis, va falloir préparer un vaccin pour ce variant Omicron. On va voir si c'est possible. J'imagine tout le monde. Pas j'imagine, on sait que Pfizer, Moderna travaillent là-dessus. Justement, hier, des ministres de la Santé de la France, des États-Unis, du Canada, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni étaient réunis pour discuter de l'évolution de la situation sur le variant Omicron. On a avec nous le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, Tariq Yazarevic. Tariq, bonjour.
Bonjour, Benoît.
Bonjour. Là, ça fait plusieurs fois qu'on se parle. Là. On est en train d'en prendre l'habitude.
Écoutez, moi, ça me fait plaisir. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver.
Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette rencontre d'hier des ministres de la Santé, Tariq?
Écoutez, tout le monde est en train de discuter un peu de ce nouveau variant. Nous, à l'OMS, on a commencé hier l'Assemblée mondiale de la santé où tous les pays du monde sont réunis pour discuter en fait d'un traité possible à l'avenir pour être mieux préparé à des pandémies d'avenir. Donc on espère que les pays ils vont arriver à un accord et que on va renforcer la coopération internationale, on va renforcer les mécanismes qu'on a parce que ce qu'on a vu avec COVID-19, c'est qu'on n'était pas préparé et qu'on n'était pas solidaire non plus. Il faut être honnête.
Ouais.
On a vu ça avec l'inégalité des vaccins qui, effectivement, a mené à ce scénario qu'on craignait et qu'on prédisait, à savoir des nouveaux variants qui arrivent, tout simplement parce qu'on n'a pas offert le vaccin d'une manière équitable et que le virus a assez de temps pour circuler, pour s'adapter et pour changer.
Est-ce que, d'une façon réaliste, Tariq, est-ce que les pays plus riches auraient pu... est-ce qu'il y avait assez de vaccins pour distribuer davantage de vaccins dans les pays plus pauvres ou moins bien organisés? Et est-ce qu'il y a un réseau pour distribuer, pour vacciner les citoyens dans ces pays-là?
Oui, effectivement. À part un très très petit nombre de pays qui sont en conflit et qui effectivement pourraient avoir quelques soucis au niveau logistique, tous les autres pays étaient prêts. Il faut se rappeler que beaucoup de pays en Afrique doivent faire des vaccinations pour d'autres maladies de manière régulière.
Mm-hmm.
Donc ils ont la logistique, ils ont l'habitude de vacciner. Le problème c'était que que on a mis en place le système COVAX, qui était un mécanisme censé à nous assurer une répartition des vaccins de manière équitable pour tous les pays, riches et pauvres. Malheureusement, les pays riches ont préféré faire des accords bilatéraux avec les producteurs. Les producteurs aussi ont privilégié ces contrats avec les pays. Et COVAX, du coup, s'est retrouvé dans une situation où les vaccins sont pris pour les pays riches qui nous donnaient de l'argent, mais il n'y avait pas de vaccins disponibles. Et donc, le système était là, mais la volonté n'était pas là.
Quelle est la responsabilité, quelle est la part de responsabilité des compagnies pharmaceutiques dans ce fait qu'il y a des pays qui n'ont pas vacciné leur population et que finalement, c'est en train de nous rattraper?
Et donc, il y a d'une part la responsabilité des pays et d'autre part la responsabilité des producteurs, des compagnies. Et eux, ce qu'on leur a demandé, donc déjà, c'est de donner la technologie, le transfert de technologie, le transfert de savoir-faire, la recette des vaccins, quelque part, donc de lever le bouclier de la propriété intellectuelle. On a demandé aussi aux compagnies de privilégier COVAX, donner leur production à COVAX, à ce mécanisme, plutôt que vendre peut-être un peu plus cher aux pays qui ont de l'argent.
Ouais.
Malheureusement, les compagnies privées, nous, on a aucun moyen d'imposer notre vision des choses. Mm-hmm. Donc, ce qu'on essaye maintenant, c'est vraiment voir avec les pays, les États, prochaine fois, il y a une pandémie, comment on pourrait faire mieux? Est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes pour éviter effectivement le genre de situation qu'on a vécu avec cette pandémie?
Pourtant, Tariq, il y a eu des épidémies, il y a eu peut-être pas des pandémies, mais quand on pense à l'épidémie d'Ebola, les pays donc étaient toujours en réaction. Ils n'avaient pas de plan de match pour contrecarrer le genre de pandémie qu'on a vécu, qu'on vit présentement.
Ebola, c'était pas à cette échelle-là. Ebola avait un impact sur quelques pays en Afrique de l'Ouest, si on parle de la grande épidémie d'Ebola 2014-2015. Et ça s'est passé dans trois pays, alors que là, on est vraiment dans une pandémie qui touche tous les pays du monde. Et voilà, on s'est rendu compte que d'un côté, voilà, il n'y avait pas, même les pays qui pensaient avoir des systèmes de santé forts, se sont rendus compte que même ces pays-là n'arrivaient pas à gérer. C'est qu'on avait, on n'était pas préparé pour vraiment arrêter les chaînes de transmission, ce qui nous a amené à des situations de restrictions extrêmes, de fermeture des sociétés, de fermeture de voyages. Et voilà, ça nous a aussi montré qu'il n'y a pas de système pour assurer un partage de manière équitable entre tous les gens de la planète qu'on est en train de développer. Donc, regardez, c'était un exploit incroyable vraiment au niveau scientifique de trouver les moyens de dépistage, d'arriver à des vaccins aussi vite. Ça ne s'est jamais fait. Malheureusement, avec toutes ces avancées, on n'a pas pu arriver à un mécanisme de solidarité.
Oui. Est-ce que le fait, là, vous parlez de solidarité, Tariq, le variant Delta provient de l'Inde, le variant Omicron provient de l'Afrique du Sud, là, si je comprends bien. Le taux de vaccination est de 24% en Afrique du Sud, de 32% en Inde. Est-ce qu'il y a là, justement, une remise en question de tous les pays pour éviter de nouveaux variants? Parce que tant qu'on n'aura pas vacciné, les variants ne cesseront pas d'apparaître.
C'est exactement c'est ce qu'on disait depuis le début de cette pandémie, et notamment depuis l'arrivée des vaccins. On a dit, si on n'arrive pas à vacciner de manière équitable, ben, il y aura des parties du monde où le virus va circuler beaucoup plus, et il aura beaucoup plus de temps pour changer et pour s'adapter. Mmh. Et donc voilà, il va revenir même vers les pays vaccinés, et c'est la grande question maintenant. Est-ce que ce variant ou un variant de l'avenir va pouvoir éviter la protection conférée par le vaccin.
Est-ce qu'on peut dire que c'est inévitable qu'il y aura d'autres variants?
C'est très probable, parce que le virus, il est là, il essaye de s'adapter, comme tous les virus. Ils essayent d'éviter les pièges qu'on nous impose à des pathogènes. Mm. Et donc, maintenant la question, c'est que est-ce que les mutations vont avoir un impact négatif sur la transmissibilité, sur la sévérité de la maladie, sur l'efficacité des vaccins? Pour ce qui est Omicron, on ne le sait pas encore, donc il faut attendre quelques semaines pour savoir. Mais à l'apparition, effectivement, si on n'a pas une couverture vaccinale, on a plus de risques de voir le virus changer.
Est-ce que l'Organisation mondiale de la santé, Tariq, demande à ce que les frontières restent ouvertes alors que les restrictions de voyage vers et en revenant des pays africains se multiplient? Je ne comprends pas le raisonnement de l'Organisation mondiale de la santé qui est finalement contre la fermeture des frontières.
Je vais vous expliquer, Benoît. Donc, tout simplement, c'est que isoler un pays ne va pas vraiment arrêter le virus. Ça peut ralentir. En plus, c'est tellement injuste parce que l'Afrique du Sud a fait exactement ce qu'on demande à tous les pays. Donc, on demande à tous les pays de faire la surveillance et de observer s'il y a des mutations, s'il y a des modifications au niveau de la séquence génétique. Donc, Afrique du Sud a fait exactement ce qu'on lui a demandé. Et maintenant, certains pays sont en train de punir ce travail exemplaire d'un pays. Alors qu'on sait très bien que fermeture d'isolement d'un pays ne va pas vraiment arrêter la propagation. On a vu ça avec Delta. On a essayé avec Delta, ça n'a pas marché. Mais... Donc, en fait, ce qu'on doit faire, c'est vraiment les pays doivent mettre en place les mesures pour diminuer la propagation du virus. Ils doivent faire la surveillance épidémiologique. Ils doivent faire la séquence génétique, partager les données, faire la recherche si possible. Et les gens, les individus, ils doivent essayer de diminuer le risque. Donc voilà, on doit tous faire quelque chose pour essayer de réduire la transmission de virus, au lieu de, s'il y a des restrictions possibles, il faut que ça soit vraiment fondé dans la science. Pour le moment, on ne sait pas assez sur Omicron. Il faut aussi que ça soit porté sur un contexte épidémiologique particulier de chaque pays.
Mais
qu'est-ce qu'on demande au pays?
La fermeture des frontières, là, vous êtes-vous en train de me dire, Tariq, que ce n'est pas une méthode efficace? Moi, ce que je comprends, c'est que si on réduit la circulation des individus qui sont contaminés, ben on va peut-être réduire la contamination.
On peut réduire. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. On peut réduire et ralentir, mais on ne va pas vraiment arrêter. Donc, punir injustement un pays ou un groupe de pays, alors qu'ils ont fait vraiment un travail exemplaire pour découvrir, si vous voulez, les mutations, ça ne va pas. Parce que le virus, il va trouver le moyen de... Et si un pays n'est pas prêt à diminuer la transmission de ce virus sur son territoire...
Ouais.
C'est en fait ça ce qu'il faut faire, parce que si on essaye vraiment, si le but c'est de n'avoir aucun cas, on a vu avec des pays que ça marche pas vraiment et que le virus malheureusement il trouve le chemin et il a trouvé le chemin pour tous les pays.
Ouais, Tariq, faut qu'on se quitte, mais c'est dur, c'est difficile sur le moral là, j'imagine, de tout le monde, que ce soit ici au Québec, en Amérique, en Europe. Cette apparition de ce nouveau variant à l'aube des fêtes de Noël, ici au Québec, le gouvernement hier nous disait d'éviter de voyager, peut-être même d'annuler nos vacances à l'étranger. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment réagir.
Ben, c'est difficile, et c'est le cas de tout le monde. On en a tous un peu marre. On voudrait tous revenir à une vie d'avant. Mais le virus, il est là. On voit que les gens qui sont pas vaccinés représentent la majorité des gens qui sont dans les systèmes de santé. Donc, on a tous un part à jouer. Donc, on doit tous on doit se vacciner. On doit garder les distances. On doit porter le masque. On doit éviter la foule. On a tous un rôle à jouer pour diminuer la transmission du virus. Après les mesures que les autorités sanitaires vont impliquer, vont différer d'un endroit à l'autre, dépendant de la situation épidémiologique.
Mais est-ce qu'on doit rendre...
Il faut que tout le monde donc prenne la conscience qu'on est ensemble dans tout ça.
Ouais.
Chacun a un rôle à jouer et on a besoin d'une solidarité au niveau mondial.
Mais est-ce qu'on doit rendre le vaccin obligatoire?
L'OMS, à l'OMS, on pense qu'il vaudrait mieux vraiment expliquer le bienfait des vaccins. C'est toujours mieux que les gens vraiment comprennent
la
protection conférée par les vaccins au lieu de...
Mais ça fonctionne pas, là. Il y a des gens qui ne croient pas au vaccin. Il y a des complotistes, des conspirationnistes. Il y a des gens qui sont mal informés, qui ne s'informent pas, qui s'informent sur Facebook avec des sottises et des conneries. Est-ce que faut arrêter d'espérer que les gens comprennent les données scientifiques et qu'on les oblige à se faire vacciner, Tariq?
Donc voilà. Donc ce qu'on dit, autorités sanitaires, que ce soit au niveau national, régional, local, dans n'importe quelle partie du monde, s'il n'y a pas d'autre solution, si on a tout essayé, si on a expliqué, si on a essayé vraiment de faire comprendre, et que si on voit que ce manque de couverture vaccinale met à danger les autres, en tant que dernière option, on peut considérer l'obligation. Mais comme tout dans la vie, si on impose quelque chose par force, ça risque d'avoir des effets négatifs. Donc, il faut tout faire avant d'arriver à ce moment où il faut imposer une vaccination obligatoire.
Mais pour le bien commun, on interdit, par exemple, le meurtre. On interdit... est-ce qu'on est rendu là? Est-ce qu'on est rendu à dire, pour le bien commun, on va imposer la vaccination obligatoire partout?
Écoutez, si, encore une fois, donc si tous les autres moyens ont été épuisés et qu'on voit que la vie des gens est en danger, effectivement, on peut considérer... rendre la vaccination obligatoire. Oui.
Très bien. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance. Ce n'est pas terminé, cette pandémie. Tariq Yazarevic, porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Merci, Tariq. À la prochaine.
Merci, Benoît.